Comment mieux vivre au XXIe siècle sur Africa Radio.
Nous sommes en compagnie de Stéphane Eboko. Bonjour Stéphane.
Bonjour Dianaba, comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Très bien, je vous remercie.
Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs?
Je suis Product Manager dans les nouvelles mobilités à Total Energy, au siège à La Défense en France. Mais je suis également fondateur de Arcalon, qui est un incubateur pour les créateurs. Et puis auparavant, j'ai été cofondateur de SkyEye, qui est une start-up panafricaine qui développe des solutions technologiques. Et les insights qui sont basés sur le big data et l'intelligence artificielle dans les marchés émergents avec des services comme MatriRoute, que vous connaissez peut-être au Kenya, qui est la première application mobile de crowdsourcing pour tous les commuteurs qui se déplacent en ville et qui donc utilisent cette application pour savoir ce qui se passe sur la route, quel état de la route, comment éviter le trafic, ce genre de choses.
Oui, très bien. Merci pour cette présentation. Du coup, vous avez beaucoup voyagé pour le travail, donc vous êtes à même de nous apporter votre regard sur la mobilité du côté du continent et surtout mis en corrélation avec l'innovation digitale. Alors, l'innovation digitale tournée vers les mobilités, est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait ses preuves depuis le Covid ou alors elle a été mise à mal?
Alors le Covid, c'est vrai que depuis 2 ans, elle a impacté quand même pas mal la mobilité en général, le transport des personnes et des biens. C'est pas un sujet uniquement africain, bien entendu.
Oui.
Mais c'est vrai que tout récemment, avec l'apparition de nouveaux variants, on a quand même un vrai sujet.
Oui.
Autour de la non mobilité, du fait de fermeture de frontières, du fait de la limitation pour certains ressortissants africains notamment,
oui,
de leur déplacement, ou la limitation du déplacement de ressortissants étrangers vers l'Afrique. Mmh. Et ça a un impact très concret, c'est que concrètement les partenaires financiers, les partenaires économiques, les partenaires commerciaux des marchés africains,
oui,
ne peuvent plus se déplacer pour venir sur le terrain, échanger avec leurs partenaires et travailler ensemble, flécher des investissements par exemple. Et donc ça va avoir un impact sur le développement économique, ça va avoir un impact sur la croissance commerciale,
oui,
sur les balances commerciales des pays africains.
Mm-hmm.
Donc ça pose un vrai défi. D'une part. D'autre part, la Covid, elle a aussi mis en exergue les nouvelles technologies pour la communication,
oui,
Zoom, Teams et toutes ces applications. Finalement, ça a quand même pas mal accéléré la digitalisation des échanges. Et donc ça, c'est un point positif quand même à finalement une pandémie qui a affecté beaucoup d'acteurs,
oui,
publics, privés et du développement. Et puis ça a permis à des entreprises digitales du numérique de se faire connaître à travers le monde finalement durant cette période-là, puisque les partenaires ne se déplaçant plus nécessairement, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été complètement digitalisés et qui ont permis de mettre en exergue des initiatives, des entreprises, des organisations qui auparavant n'auraient pas nécessairement été mises en lumière.
Vous pouvez nous citer des grands événements qui ont été mis en lumière grâce au digital?
En tant que Total Energy, on est partenaire d'un événement qui s'appelle Moving On,
oui,
qui est un consortium qui regroupe différentes entreprises, différents acteurs sur des sujets de mobilité durable.
Oui.
Et c'est vrai qu'habituellement, c'est un événement qui est annuel, hein, et qui se passe dans une ville, donc soit à Montréal ou en région parisienne. Et pour la première fois, l'événement a été complètement digitalisé pour la dernière édition.
Oui.
C'est trouvé qu'il y a eu plus de participation du fait de cette digitalisation à 100%.
Oui, exactement, parce que j'imagine que ça a touché aussi des personnes qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Du coup, ça rend l'aspect beaucoup plus ouvert, on va dire.
Des événements qui auparavant étaient tournés vers un marché plutôt local, en Asie ou en Afrique,
mm-hmm,
ont pu avoir une plateforme beaucoup plus globale.
Mm.
Et puis, ça a permis aussi, finalement, comment dirais-je, de faire le parallèle entre finalement les outils qu'on utilise aujourd'hui pour le networking comme LinkedIn ou d'autres.
Oui.
Quelque part, ça a rapproché les gens. Ça nous a permis de networker et avant les événements, pendant les événements et surtout après les événements, de pouvoir garder le contact et avancer sur des projets. Et je trouve qu'il y a eu pas mal d'accélération de projets ou d'initiatives et de partenariats durant cette période.
Oui, très bien.
Je sais que moi, je n'ai pas été moins actif pendant la Covid, au contraire. J'étais presque le plus actif,
ouais.
Si ce n'est hyper actif.
Ce matin, on s'intéresse au digital, le digital comme défi hein, dans les zones rurales et surtout comme levier de la croissance économique africaine. Bonjour Stéphane Eboko.
Bonjour à tous.
Les zones rurales en Afrique n'ont pas forcément accès justement à l'Internet. C'est quelque chose qui reste encore à mettre en place, ça reste encore un défi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que d'ici à aller par exemple 2035, qui est une année qui correspond à un prochain boom démographique, est-ce qu'on aura la possibilité, vous pensez, d'avoir Internet dans ces zones rurales-là et du coup d'avoir accès au digital justement pour au digital économique, si je peux dire comme ça, professionnel?
Je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet par rapport aux zones blanches encore dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines, hein, ceci dit.
Oui, oui.
Les telcos qui sont présents en Afrique, que ce soit Orange, MTN, qui eux sont au plus proche des clients finaux,
oui.
travaillent sur le sujet. Google travaille sur le sujet aussi, l'accessibilité à Internet, des gros acteurs. Et puis il y a tous les aspects d'infrastructure, donc infrastructurelle liée aux tours,
oui.
Liée aux câbles sous-marins. Qui sont déjà disposés, il y en a d'autres qui vont être mis en exergue aussi.
Mmh.
Bon, il y a un défi par rapport aux zones rurales, mais il y a aussi un défi par rapport à l'urbanisation. En fait,
oui,
c'est je pense que les deux sont liés, hein.
Oui.
Puisque le sujet de l'accessibilité du passage du rural à l'urbain, de l'urbanisation qui est croissante avec globalement l'Afrique elle s'urbanise beaucoup plus rapidement que toute autre région du monde. D'ici à 2045 il y aura 24 millions de personnes en plus par an, donc chaque année dans les villes
oui.
africaines.
Oui.
D'ici à 2025, donc d'ici 4 ans, on aura 14 mégacités, donc qui auront plus de 5 millions d'habitants chacune.
D'accord.
Et près de 200 millions de personnes en plus qui vont vivre dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines. Donc ça va poser un vrai défi parce que aujourd'hui c'est Lagos, le Caire, Kinshasa.
Oui.
Et demain, il y aura aussi Casablanca, Dar es Salaam, toute la région autour de Johannesburg, Addis Abeba, Nairobi,
oui.
Kano, Abidjan, Luanda, qui vont aussi devenir des mégacités. Et donc, ça va poser un vrai défi.
Oui.
L'urbanisation, c'est un facteur de croissance, a priori. Hein. En tout cas, historiquement, ça a été le cas, puisque ce sont des personnes qui rejoignent l'économie,
oui.
Qui vont travailler dans les industries, qui consomment, qui soutiennent un certain nombre de secteurs. Maintenant, quand on se pose la question du digital, l'Afrique subsaharienne, en tout cas, c'est la région qui a la plus forte croissance d'un point de vue des connexions, des nouvelles connexions broadband, quoi.
Oui. Oui.
Plus que toute autre région. Donc c'est quand même alors on part de loin, mais c'est quand même une région qui se digitalise très 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 rapidement, d'une part, et puis d'autre part où les populations sont souvent digital first,
oui.
et mobile first,
oui.
ce qui peut constituer une ressource et peut-être qu'on y reviendra, mais aussi une opportunité pour les initiatives qui sont des initiatives numériques, avoir accès à différents services, que ce soit l'éducation, la santé, la finance, l'information, l'investissement.
Et la mobilité. En quoi et pourquoi le digital, c'est un levier pour la croissance économique en Afrique?
Alors, il y a plusieurs questions dans la même question.
Oui.
D'abord, c'est la possibilité d'avoir accès à des informations de manière low cost.
Oui.
Et quand on dit que l'information, le savoir, c'est le pouvoir, entre guillemets. C'est aussi la capacité pour le grand public d'être informé, de remettre en question des sources d'informations qui peuvent être des sources d'informations publiques et du coup de croiser les informations. Oui. C'est l'accès à des informations qui sont des informations qui viennent du monde entier. Pour des millennials et une nouvelle génération, leur capacité à juste faire partie du monde, faire partie de l'écosystème, y contribuer. On le voit avec tous les créateurs qui émergent du continent, qui influencent. On le voit avec la culture aussi. Pour ne pas les citer, mais des artistes comme beaucoup d'artistes afrobeat nigérians aujourd'hui, oui. influencent les tendances culturelles dans le monde entier. Et c'est aussi grâce aux outils digitaux, c'est aussi grâce aux plateformes de création, plateformes de distribution, plateformes d'information, à travers lesquelles ils peuvent se promouvoir. Et donc c'est assez intéressant de voir ces tendances-là. Oui. Puis il y a d'autres aspects qui sont très concrets. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher d'utiliser le digital aujourd'hui que point de vue investissement, d'un point de vue infrastructure. Et puis ça permet aussi de faire ce qu'on appelle entre guillemets du leapfrog. Hein, donc assez rapidement développer des solutions qui peuvent être des solutions low cost, oui. et qui sont basées sur la technologie. Pour avoir accès à des services ou des produits. Donc le e-commerce, par exemple, c'est un sujet. Ben, les acteurs comme Jumia, par exemple, qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs et qui montrent une croissance très importante sur l'ensemble du continent. Parce qu'il y a tout un écosystème autour de livraison, de paiement et toutes les applications et les fonctionnalités qui vont avec.
Très bien, merci Stéphane et beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'on doit craindre que le virage du digital ne soit pas pris par certaines grandes villes africaines ou même dans un sens plus large, certains États africains et qui seraient du coup, il faut le dire, complètement à la ramasse hein. Et quel constat vous faites aujourd'hui? Quels sont les pays les plus actifs en la matière? Vous avez déjà évoqué évidemment le Nigeria, mais on parle de l'Afrique de l'Ouest surtout.
Ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien réfléchir en termes de zones urbaines.
Oui.
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une fragmentation, alors qui est le résultat de défis infrastructurels. Vous l'avez évoqué. Parfois, il y a des zones blanches qui sont très importantes. Il y a des sujets aussi par rapport à l'infrastructure routière.
Oui.
Il y a des villes qui sont un peu déconnectées les unes des autres. L'allocation de terres, enfin le land allocation, c'est aussi très fragmenté. Il y a des investissements d'infrastructure qui sont quand même relativement bas sur la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Et donc il peut y avoir des coûts qui sont un peu prohibitifs sur certains aspects, par exemple pour le logement, pour l'accès à la santé, où il y a un vrai disconnect entre les cliniques privées et la santé publique. Et donc ça pose des vrais défis. Mais des zones urbaines comme Abidjan, par exemple, c'est des zones urbaines qui sont très dynamiques. Pour différentes raisons. D'abord, il y a l'accès, il y a le port, donc il y a l'accès à des produits et des services. Il y a la présence aussi d'un certain nombre de... Et Abidjan, c'est un des exemples, mais c'est le cas à Lagos, c'est le cas à Onitsha, c'est le cas à Kano, c'est le cas même à Kinshasa, c'est le cas à Dakar.
Oui.
Et en fait, il y a un certain nombre d'acteurs, d'entreprises qui sont des entreprises très importantes, mondiales, multinationales. Je ne vais pas citer les noms ici, mais qui sont présentes sur ces marchés-là et voilà. Si elles ont pris la décision d'être présentes, d'ouvrir des franchises, des succursales dans ces zones urbaines, c'est effectivement parce qu'il y a un dynamisme, il y a une diaspora qui revient aussi beaucoup,
oui.
qui est très présente et qui a les mêmes exigences qu'elle aurait pu avoir en Europe, aux États-Unis. Ou en Asie, et qui revient et qui souhaite avoir accès aux mêmes produits, aux mêmes services.
Oui, oui.
Voilà, au même standard de qualité de vie.
Oui.
Donc ça, ça a aussi une influence qui est non négligeable. Et je pense que depuis quelques années, il y a une diaspora qui est très dynamique et qui s'investit, qui est polyglotte, qui est multiverse.
Oui.
Et vous allez rencontrer des Ivoiriens au Cameroun, des Nigérians au Sénégal, voilà. Donc il y a aussi cet aspect-là, en fait, entre guillemets, de panafricanisme un peu 2.0, quoi.
D'accord. Et sur la question de la digitalisation de la mobilité urbaine, est-ce que les gouvernements devraient s'investir plus?
Est-ce que les gouvernements devraient s'investir plus? C'est une bonne question. Je pense que à un niveau décentralisé, les municipalités, les autorités publiques, elles font ce qu'elles peuvent avec le peu de moyens qu'elles ont.
Oui. Ça ne devrait pas être une priorité quand on regarde là justement l'évolution démographique.
Je pense que c'est le cas, en fait. Les administrations, elles subissent aussi les défis qui s'imposent, hein, puisque y a des initiatives qui sont des initiatives continentales, comme l'AFTA, qui ont vocation à favoriser une intégration plus importante des différentes zones africaines, donc de créer de nouveaux corridors, de faire en sorte que les administrations travaillent ensemble pour réduire, par exemple, les frais de douane, accélérer le dédouanement des produits quand ils arrivent dans des ports ou quand ils traversent des frontières.
Oui.
Y a quand même un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Alors, elles sont prises au plus haut niveau, de l'Union africaine, au niveau de ces instances.
Oui.
Et ensuite, elles se décentralisent petit à petit jusqu'à un niveau très local.
D'accord.
Ça prend du temps. Mmh. C'est toujours le temps des décisions politiques. C'est un temps, et c'est vrai que pour nous, ça va jamais assez vite. Mais d'un point de vue des consommateurs, d'un point de vue des acteurs, même privés, ça va jamais assez vite.
Mmh.
En revanche, on voit aussi que parfois le marché ne tend pas qu'il y ait de la régulation. Le marché, parfois, il se fait, il se crée, les échanges se créent et le commerce se fait.
Stéphane, nous avons vu ensemble que le digital a sauvé pas mal d'entreprises et d'événements depuis le début de cette crise. Et qu'en dépit de ce qu'on pourrait croire, il a été plus facile pour certaines entreprises et certains événements de rassembler plus de monde qu'en présentiel. Nous avons également vu ensemble la nécessité d'ouvrir et de tendre le digital dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones rurales. Et justement, on s'intéresse à l'innovation digitale dans les mobilités urbaines, Stéphane?
Bon, d'abord, il y a un aspect déplacement des personnes et un aspect déplacement des biens.
Oui.
Je vais commencer par le déplacement des biens et par la logistique. On a eu un développement du continent qui s'est fait dans les villes qui avaient des grands ports.
Oui.
Au nord, au sud, donc le sud à Cape Town, au nord avec le Caire, à l'ouest avec Lagos, à l'est avec Dar es Salaam. Et donc ces pôles-là ont vraiment, comment dirais-je, été des points de rayonnement pour l'ensemble de l'Afrique, puisqu'ensuite, sur les réseaux infrastructurels routiers, de trains, et fret, etc. Ça a permis d'alimenter l'ensemble du continent.
Mm.
Ce qui se passe, c'est que avec le temps, la vétusté, la complexité aussi des process, les distances, ont fait que il y a des vrais défis logistiques et le coût. Aujourd'hui, la digitalisation, l'innovation, où est-ce qu'elle s'est passée au niveau de la logistique, par exemple, c'est la capacité pour certains transporteurs qui peut-être n'avaient pas, utilisé l'ensemble de la capacité d'un conteneur, par exemple, la capacité de mettre à disposition les X% de capacité qu'il reste,
oui,
via des plateformes pour des clients. au bon moment, au bon prix. Voilà, donc un petit peu cette, entre guillemets, hein, grosse guillemets, ubérisation, et la plateforme, l'utilisation de plateformes, de marketplace, basé sur le numérique, il y a quelques entreprises qui le font et qui se développent plutôt très bien, comme Kobo 360 ou autres, et qui finalement bon, accélèrent, innovent au niveau de la logistique pour les produits. Du côté des personnes, bah, y a un aspect d'infrastructure, donc l'infrastructure, c'est on va dire ce qui est concret, ce qui est physique.
Oui.
L'infrastructure, c'est tout l'aspect de gestion, alors création, gestion, maintenance et mise à disposition de la donnée en temps réel, la donnée collectée et ensuite analysée.
Oui.
Et mise à profit ensuite pour, par exemple, de l'accidentologie, pour améliorer les infrastructures à long terme, la planification urbaine, pour améliorer les transports publics et l'expérience de transport public des usagers dans les zones urbaines.
Oui.
Et entre les villes aussi, donc pour décloisonner les villes, donc avec des plateformes de booking, ça paraît tout bête, hein, mais des plateformes de booking de bus, avec la digitalisation des tickets, par exemple, avec le paiement digitalisé via NFC, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi finalement toutes les briques fonctionnelles de planning d'un trip, de booking, de paiement, d'analyse.
Oui.
C'est des innovations qu'on voit émerger depuis quelques années maintenant avec des acteurs qui sont de plus en plus important.
Stéphane, autant le digital a aidé, a même sauvé, comme je le disais tout à l'heure, des entreprises et des événements pendant cette crise, cette pandémie de Covid, hein, de coronavirus, autant elle peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez un coup de gueule à passer, justement.
C'est un peu l'actualité, ça impacte pas mal d'acteurs. C'est vrai qu'un gros sujet pour moi en ce moment de réflexion et de discussion avec différents acteurs, c'est autour du traitement qui est fait aujourd'hui des frontières africaines, de l'accès au marché africain et de l'accès aux Africains au marché étranger.
Oui.
Aujourd'hui, il y a un vrai frein qui est mis et c'est d'une part injuste et d'autre part contre-productif. Donc voilà. Donc je pense que c'est un sujet qui va continuer d'être débattu, d'être discuté. C'est lié à des questions de santé publique, c'est lié à des questions de développement, c'est lié à des questions de traitement post-colonial.
Oui.
Encore une fois, on se pose la question de où sont les décideurs et est-ce qu'ils sont dans notre camp ou pas.
Oui.
Et comment faire en sorte que la voix des acteurs privés et de la société civile soit entendue d'une manière qui est efficace sur la place internationale.
Très bien, merci beaucoup Stéphane et beaucoup de vous être livré et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio.
Merci beaucoup, au revoir Dinaba.
Au revoir Stéphane et beaucoup, merci.